Excellence.
Je n'ai pas voulu tout à l'heure déranger l'Assemblée et je n'ai pas voulu vous déranger vous-même. Je ne suis donc pas allé présenter mes honneurs en baisant votre anneau, mais je le ferai très vite après la conférence. Excellence, monsieur le directeur qui s'en va, chers confrères dans le sacerdoce, ici présents, chers religieux, chères religieuses, bien chers fidèles, Monseigneur, votre présence me rappelle un souvenir d'Écône, lorsque j'essayais de vous aider auprès des séminaristes qui vous avaient été confiés. C'était un 3 février, après la prise d'habit, et l'histoire plaira aux Suisses présents dans l'Assemblée. Un 3 février, après la prise de Soutane, la tout de suite après Soutane, et nous allions en communauté, tout le séminaire allait prendre un repas, souvent dans les montagnes, et c'était cette fois-ci une raclette. Raclette est un mets apprécié par les Valaisans. Il y a des pommes de terre et du fromage chauffé sur le feu et qui coule sur les pommes de terre. Parmi nous se trouvait un séminariste qui avait passé quelques années en vie religieuse dans une communauté assez austère, si bien qu'il avait refusé de boire du vin. Et le thé ne lui convenant pas, le thé chaud, il a pris de l'eau. Et voilà que, quelque temps après son repas, le fromage s'est durci. Si bien qu'il était au plus mal et je l'ai ramené à Écône, Monseigneur, vous restiez auprès des séminaristes. Inquiet, on l'a conduit à sa cellule pour qu'il s'alite. Et comme le mal empirait, nous avons appelé le médecin pour avoir son avis, lequel nous a tranquillisés. Et nous a dit, ben, mettez-lui sur le ventre une bouillotte d'eau chaude. Allez trouver au séminaire une bouillotte, heureusement que les sœurs en avaient une, qui nous l'ont prêtée charitablement. Ils sont venus au secours de ce brave confrère qui, déliré, et que disait-il dans son délire ? Oh Maria, 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 Maria ! Il appelait à son secours, en cette extrémité apparente, sa maman du ciel. Eh bien, nous allons louer pendant quelques instants ensemble la Vierge Marie en des propos plus sérieux. Bossuet a fait un très beau panégyrique sur l'apôtre Saint Jean. Et il nous dit que notre Seigneur, en quittant la terre, a laissé à Saint Jean 3 trésors. Et dans l'ordre indiqué par l'aigle de Meaux, il s'agit de la croix de Jésus, de la mère de Jésus et du cœur de Jésus. Et le père Grégoire Lagrange, dans son célèbre livre « Le Sauveur et son amour pour nous », à la fin de ce livre, reprend cette idée très belle et très profonde de Bossuet et il expose en sens inverse. Dans l'ordre historique des événements, dit-il, Jésus a laissé à Saint Jean, avant de quitter ce monde, son cœur. Saint Jean a eu en effet le privilège de reposer sa tête sur le sacré cœur, de l'entendre battre au rythme de l'amour de Jésus. Saint Jean a reçu la Vierge Marie. Elle l'a reçu aussi en quelque sorte comme protecteur, comme gardien terrestre, mais c'est surtout lui qui l'a reçu comme mère. Et enfin, Saint Jean a reçu la croix de Jésus, et précisément sous l'angle du martyr du cœur, car comme vous le savez, Saint Jean est honoré comme un martyr, un vrai martyr, bien qu'il ne soit pas mort, des sévices du martyr qu'il a réellement subi. Eh bien, je voudrais m'arrêter au don que Jésus a fait à Saint Jean en la personne de notre Mère du Ciel, de l'Immaculée Conception, en la personne de la Vierge Marie. Saint Jean célébrait la messe devant Notre-Dame Et c'était pour elle vraiment le renouvellement du calvaire. Il lui donnait la Sainte Communion. Et Notre-Dame, comme médiatrice de toutes les grâces, aidait Saint-Jean à être de plus en plus conforme au prêtre qu'il était par l'ordination du Jeudi Saint, à être une image de plus en plus fidèle de Jésus-Christ, à être de plus en plus alter Christus, un autre Christ. Notre-Dame voyait mieux que Saint-Jean la richesse de l'âme de Saint-Jean, la marque sacerdotale par le caractère dans l'âme de Saint-Jean, prêtre et même évêque. Et Notre-Dame a donc aidé Saint-Jean à rentrer, en plus de la révélation, bien sûr, des lumières qu'il recevait, mais elle, comme médiatrice de tout cela, à rentrer dans l'intimité de son sacerdoce. Et elle a aidé à être de plus en plus saint prêtre. Elle a aidé à monter de sainteté sacerdotale en sainteté sacerdotale. Oui, il y a entre Notre-Dame et le sacerdoce de très grandes relations, de très profondes relations. Tout à l'heure, le présentateur, monsieur le prieur de Lourdes, nous disait que Lourdes est une ville mariale et que les apparitions de la Vierge de l'Immaculée Conception sont sous le sceau du sacerdoce. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Jusqu'où peut-on aller pour expliquer la relation entre Notre-Dame et le sacerdoce? D'abord, il y a une relation évidente entre Notre-Dame et le sacerdoce de son Fils. Notre-Dame est la mère de Dieu, la mère de Jésus, qui est Dieu, et dès l'incarnation, à l'instant même de l'incarnation, lorsque la nature divine en Jésus assume la nature humaine, dès l'instant de l'incarnation, Jésus est prêtre. Il est prêtre dans son humanité, bien sûr, car être prêtre, cela ne convient pas à Dieu. Il est prêtre dans son humanité, parce que celle-ci est unie par une grâce très spéciale, et très haute et unique, la grâce de l'union hypostatique. Jésus est prêtre d'une manière innée. Il ne fallait pas qu'il reçût autre chose après, même pas un instant d'après. Il ne fallait pas qu'il reçût ce caractère sacerdotal après, et qu'il soit enrichi d'autre chose qui le fit prêtre après l'incarnation. Il était prêtre dès l'incarnation. Et cela, donc, il le doit à Marie dans une certaine mesure, puisque elle est sa mère, et c'est en elle qu'il s'incarne. Notre-Dame est la mère du sacerdoce de Jésus, comme elle est la mère de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Jésus, prêtre dès l'incarnation, reçoit donc l'onction sacerdotale par la maternité divine. Autrement dit, Notre-Dame est le sanctuaire dans lequel a lieu cette sublime ordination de Jésus-Christ. Nous parlons tout à l'heure de chapelle. La Vierge demandait que le curé Père Amal construise une chapelle à la grotte, au-dessus de la grotte. Eh bien, Notre-Dame a été, elle, alors chapelle vivante, cathédrale vivante, dans laquelle la Sainte Trinité a au moins Jésus prêtre dans le sein de Marie. Notre-Dame est encore par rapport au sacerdoce de Jésus-Christ, puisque le prêtre est fait pour offrir le sacrifice et que Jésus est venu pour la rédemption, et donc s'offrir en sacrifice. Notre-Dame est aussi le premier autel, autel vivant, autel volontaire, autel heureux de l'être, le premier autel de l'oblation de Jésus, car comme vous le savez, et c'est saint Paul qui nous le dit, dès l'incarnation, Jésus s'est offert à son Père en disant qu'il avait reçu un corps, une humanité et un corps afin de s'offrir en sacrifice. Il s'offre donc pour la gloire de Dieu, pour réparer l'injustice des hommes commise par Adam à l'origine. Il s'offre pour la rédemption des âmes dès l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Notre-Dame est en relation avec le sacerdoce aussi parce qu'elle est en relation avec notre sacerdoce. Et comment cela? Eh bien d'abord parce que notre sacerdoce, par le caractère sacerdotal du sacrement de l'Église catholique, du sacrement de l'ordre, notre sacerdoce est une participation de celui de Jésus. Or, Jésus tient dans une certaine mesure son sacerdoce de Notre-Dame. Elle est donc un principe, elle n'est pas le principe premier, la cause première bien sûr, mais elle est une cause du sacerdoce de Jésus et donc elle est au principe du sacerdoce catholique, du sacrement de l'ordre. Et puis, Notre-Dame est médiatrice de toutes les grâces. Or, comment nous sont appliquées aujourd'hui les grâces de la rédemption? Comment les effets sauveurs du calvaire viennent jusqu'à nous? Ils ne viennent spécialement par la Sainte Messe. Or, la Vierge Marie n'avait pas le sacrement de l'ordre, elle ne pouvait pas le recevoir. Alors comment pouvait-elle exercer sa médiation de toutes les grâces et qui requérait dans le plan providentiel du salut la Sainte Messe alors qu'elle ne pouvait pas, absolument pas, célébrer la Messe? Comment alors le pouvait-elle? Comment l'a-t-elle pu? Comment l'est-elle médiatrice par la messe? Grâce au prêtre. Finalement, le prêtre célèbre la messe, certes pour la gloire de Dieu, et d'abord pour cela, pour le salut des âmes, bien sûr, et il célèbre la messe comme serviteur de la Vierge Marie. Tout prêtre est en quelque sorte chapelain de la Vierge Marie. Et c'est une très belle considération que nous expose M. Ollier dans un livre très profond intitulé « La vie intérieure de la Vierge Marie ». Le prêtre célèbre la messe et il offre son ministère à la Vierge Marie. Il se remet entre les mains de la Vierge Marie pour que la messe qu'il célèbre soit finalement la messe de la Vierge Marie et pour qu'elle soit médiatrice de toute grâce, médiatrice notamment par la Sainte Messe. Avons-nous tout dit des relations entre Notre-Dame et le sacerdoce catholique? Non pas. Pour être prêtre, il faut être appelé, être choisi par Dieu, il faut être ordonné, évidemment, par un évêque. Et avant cela, il faut se présenter à l'évêque. Il faut se laisser former par l'Église catholique qui a le secret du sacerdoce, qui est en quelque sorte propriétaire de par Dieu du sacerdoce et qui, se faisant, est elle-même sacerdotale. Les grâces de la vocation sacerdotale passent évidemment par la Vierge Marie. Et donc, elle intervient aussi pour que les jeunes gens bien formés, et elle intervient même dans cette formation entendent l'appel de Dieu, soient disposés à y répondre. Et y répondent et se laissent former tout au long de leur séminaire par la Vierge Marie, la Reine du clergé, la protectrice des vocations sacerdotales, la médiatrice maternelle des vocations sacerdotales. En parlant des relations entre Notre-Dame et son fils prêtre, en parlant des relations entre Notre-Dame et le sacerdoce catholique, qui dérive de celui de Jésus, bien sûr, avons-nous tout dit, au moins en synthèse, des relations entre Notre-Dame et le sacerdoce? Avons-nous tout dit? Vous avez entendu une conférence, je crois, hier, et qui vous parlait des ressemblances entre Jésus et Notre-Dame, entre Notre-Dame et Jésus. Et le conférencier vous a dit, non pas que j'ai entendu sa conférence ici, mais j'en ai entendu une de lui ailleurs et un peu sur le sujet. Il a dû vous dire que Jésus était comme le jumeau de la Vierge Marie. Naturellement parlant, le consanguin de Notre-Dame, et le Périgon se plaît à le dire, Jésus est le consanguin, selon l'humanité de la Vierge Marie. Mais Notre-Dame ressemble à un autre niveau à son Fils, à un niveau bien supérieur, spirituellement, surnaturellement. Elle ressemble donc à son Fils prêtre. Et c'est bien normal, puisque la grande prérogative de Jésus, selon son humanité, c'est son sacerdoce, c'est du moins la pensée de l'école française. Et c'est bien ce que Monseigneur Lefebvre nous a enseigné, n'est-ce pas, Monseigneur? Jésus est essentiellement prêtre. Et Notre-Dame, donc, lui ressemble aussi de ce côté-là. C'est, je dirais, une évidence de principe que l'on peut ensuite prouver théologiquement en analysant les éléments de la ressemblance. Enfin, retenons ceci, Notre-Dame ressemble à Jésus-prêtre en tant qu'il est prêtre. Et les prêtres catholiques ressemble à Notre-Dame à ce titre aussi de leur sacerdoce. Notre-Dame est entre Jésus et nous, prêtres catholiques. Analysons cette ressemblance. Essayez, au fond, aller au plus intime des choses. Quand Notre-Dame a été prise chez lui par Saint Jean, elle l'a pris, lui aussi. Et si elle le comprenait si bien, et s'il s'est si bien su, compris par Notre-Dame, c'est qu'il lui ressemblait. Il est évident, et je le répète, que Notre-Dame n'a pas reçu le sacrement de l'ordre. Elle ne pouvait donc pas célébrer la messe, elle ne pouvait pas confesser, elle n'avait pas non plus la mission de prêcher. À trois reprises, en 1913, en 1916 et même en 1927, le Saint-Siège a interdit que l'on représentât la Vierge Marie en vêtements sacerdotaux. Donc, ne la voyons pas en chasuble, ne la voyons pas munie d'une étole, ne la voyons pas avec un calice. Tout cela, l'Église l'interdit, car cela pourrait laisser donner dans l'hérésie. Notre-Dame n'est pas prêtre selon le sacrement de l'ordre, et cependant, n'a-t-elle pas exercé des fonctions qui nous font rentrer dans le mystère de la ressemblance qu'elle a avec son Fils et la ressemblance que nous avons avec elle? Et pour cela, il faut se rappeler ce qu'est le sacerdoce. Et nous avons l'apôtre saint Paul pour nous le dire en termes clairs dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 5e de l'Épître aux Hébreux, notamment les premiers versets 1 à 6 de l'Épître aux Hébreux. Saint Paul nous dit que tout prêtre est choisi du milieu des hommes pour les choses qui sont du culte divin. Que le prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes. Et que le prêtre ne se choisit pas lui-même prêtre, mais qu'il est choisi par Dieu pour être élevé à la dignité sacerdotale. Il faut une élection divine, un choix divin. Et saint Thomas d'Aquin reprend cet enseignement et le dit en termes théologiques dans la secunda secundae, dans la tertia pars et dans le supplément. Il nous dit que le prêtre est médiateur entre Dieu et les hommes, car à lui revient de donner le sacré aux hommes, de donner Dieu en quelque sorte, et même réellement aux hommes. À lui aussi revient de présenter les hommes à Dieu, de présenter l'humanité à Dieu. Et saint Thomas ajoute que pour pouvoir exercer légitimement et même efficacement ses fonctions, il faut un choix divin, une élection divine, il faut une ordination. Personne ne peut prétendre à la fonction et à l'autorité de conduire les autres dans les réalités sacrées s'il n'a pas été et appelé par Dieu et investi d'un pouvoir unique. Notre-Dame n'a-t-elle pas donné le divin aux hommes? Évidemment, elle a donné le divin en personne. Elle a donné Jésus, qui est le Verbe incarné, Dieu incarné, le Fils de Dieu incarné. Ce Jésus tient d'elle selon son humanité. Notre-Dame est intervenue ensuite dans tout ce que l'on peut appeler le parcours terrestre de Jésus. Elle le suit quand elle le porte. Elle le suit visiblement. Elle le voit quand il est né. Elle le suit petit bébé. Elle le suit enfant. Elle le suit adolescent. Elle le suit même adulte. Non pas qu'elle fera partie de ceux et de celles qui vont suivre Jésus durant ses marches apostoliques. Le Seigneur a fait des centaines de kilomètres pour réaliser sa mission de sauveur et prêcher la vérité. Il était venu pour rendre témoignage à la vérité, pour préparer les âmes à la rédemption, pour leur offrir la rédemption. Notre-Dame n'a pas suivi son Fils tout le temps, bien sûr, mais elle l'a suivi quelquefois. On la voit quelquefois à ses côtés. Oui. Notre-Dame ne sera pas là le jeudi saint. Elle n'assistera pas à la célébration de la première messe du monde et aux premières ordinations sacerdotales et aux premiers sacres épiscopaux du monde que Jésus-Christ va conférer à ses apôtres le jeudi saint. Mais elle sera là, sur la voie douloureuse du calvaire. Elle sera là, au pied de la croix. Elle se tiendra même debout, par des grâces très spéciales. Debout, au pied de la croix, sur laquelle son Fils agonise volontairement et meurt volontairement. Et elle offre avec lui, elle offre au Père avec lui. On pourrait dire même qu'elle l'offre avec le Père, pour la gloire du Père et pour le salut des âmes. Notre-Dame va devoir passer quelques années sur terre, alors que son Fils est monté au ciel par son ascension. Ce sera sans doute pour elle un grand sacrifice, mais il le fallait pour les premières années de l'Église. Il le fallait pour les apôtres. Et puis elle va le retrouver par son ascension en corps et en âme. Et nous fêtions tout récemment cette fête glorieuse. Elle va le retrouver dans le ciel et elle est donc à ses côtés pour continuer. Et on peut même dire faire mieux encore pour continuer son rôle de médiatrice auprès de Jésus. Elle nous transmet encore et toujours Jésus. Le prêtre donne le sacré par la parole de vérité, par la prédication sacrée. Et lorsque saint Thomas d'Aquin énonce ce rôle du prêtre de donner le sacré, il met d'ailleurs en avant l'enseignement. Ce n'est pas étonnant pour un dominicain. Notre-Dame n'a pas eu pour mission d'enseigner en public, car comme le dit encore saint Paul, il ne convient pas aux femmes d'enseigner en public. Notre-Dame n'a pas prêché en public. Et cependant, ne pouvons-nous pas voir chez elle quelque chose qui soit une forme d'enseignement de la révélation? D'abord, elle a cru à la révélation. Elle a cru à tout ce qui avait été enseigné dans l'Ancien Testament. Elle a cru à la parole de l'ange, et c'est le grand motif de la louange de sainte Élisabeth, qui va louer la Vierge, sa cousine, d'avoir cru aux paroles qui lui ont été dites, car tout cela allait s'accomplir. S'accomplissait déjà, mais allait au fil du temps, bien sûr, s'accomplir et se parfaire et se parachever, se compléter. Notre-Dame a conçu, comme dit saint Augustin, dans son esprit, l'enfant Jésus, avant de le concevoir dans ses chastes entrailles par l'opération miraculeuse de l'Esprit-Saint. Et puis, Notre-Dame a parlé en privé, et sa grande parole, sa longue parole, Notre-Dame n'était pas une bavarde. La plus longue des sept paroles qu'elle ait prononcées et qui nous soit rapportée dans l'Évangile sont magnificates. Notre-Dame s'épanche devant Dieu en chantant les louanges de Dieu et l'œuvre de Dieu en elle. Elle n'a jamais été aussi loquace qu'en cette circonstance. Eh bien, cela, elle a dit en privé. Elle a dit à sa cousine Élisabeth, or cela, c'est dans la révélation publique, c'est dans l'Évangile. Dans l'Évangile de saint Luc. Et l'on peut dire que le Magnificat, en tirant un peu, en analysant bien les choses, on peut dire que c'est un symbole de la foi, un credo en lui-même. Notre-Dame nous livre donc là des vérités sur Dieu, une part de la révélation. Et puis, beaucoup de mystères auxquels nous croyons sont, dans une certaine mesure, et très réellement, émanés d'elle. L'incarnation. L'incarnation rédemptrice n'est-elle pas émanée de la Vierge Marie? Or, nous croyons en des vérités révélées. Nous y croyons parce qu'elles nous sont révélées et enseignées par l'Église. Nous ne sommes pas des protestants. Mais toutes ces vérités révélées sont des faits. Ce sont des expressions de faits. L'incarnation est un fait. Le fait de l'incarnation, on nomme incarnation du côté de Jésus, on va nommer maternité divine du côté de Marie, mais ça, c'est un fait. On pourrait dire même un double fait, un du côté de Jésus, un du côté de Marie, et nous y croyons. Et puis, beaucoup d'articles de foi portent sur la Vierge Marie elle-même. Elle est donc elle-même dans sa personne, évidemment dans les privilèges singuliers, uniques, non communicables que Dieu lui a donnés. Notre-Dame est dans sa personne, autour de sa maternité divine, qui est son principal privilège, qui rend raison de tous les autres. Notre-Dame est objet de foi. Nous croyons en sa maternité divine. Nous croyons en son immaculée conception. À Lourdes, elle est venue pour nous rappeler cette vérité qui la concerne. Nous croyons en sa virginité perpétuelle. Nous croyons en sa compassion. Nous croyons en sa médiation universelle de toutes les grâces. Donc, en elle-même, dans sa personne même, Notre-Dame est une révélation. Elle est objet de foi. Et ce faisant, elle nous apporte un réel enseignement sous une forme qui lui est propre. Le prêtre donne le sacré par les sacrements. Vous savez que la vie chrétienne, en tant que chrétienne, est essentiellement sacramentelle. Nous ne sommes pas des protestants, encore une fois dit. La vie chrétienne repose sur le baptême. Et vous savez que le baptême est nécessaire au salut. Vous me direz, mais il y a sans doute au ciel des élus qui n'ont pas reçu le sacrement du baptême. Alors, oui, mais ceux qui sont au ciel sont morts en état de grâce. Ils sont morts dans la foi catholique, vertu théologale donnée par Dieu. Et ils avaient ce qu'on appelle le vœu du baptême. Le vœu explicite pour les catéchumènes et qui ont été avertis de la nécessité du baptême, et le vœu implicite pour ceux qui n'en ont pas été avertis. La vie chrétienne est essentiellement sacramentelle. Nous devons, chers fidèles, vivre de nos sacrements, vivre par les caractères sacramentaux reçus. Pour la plupart d'entre vous, le baptême et la confirmation. Vous devez vivre selon la grâce sacramentelle des sacrements reçus. Sacrements reçus une fois pour toutes. Sacrements que vous pouvez recevoir quotidiennement ou souvent. La Sainte Eucharistie et la pénitence. Oui. La vie chrétienne est essentiellement sacramentelle. Or, notre vie chrétienne, nous la devons à Marie comme cause seconde. Et la vie chrétienne en tant que mouvement de vie, en tant que vie spirituelle, en tant que spiritualité de la vie au jour le jour, d'heure en heure, d'instant en instant, nous la devons aussi à la Vierge Marie. Or, encore une fois, elle ne pouvait pas conférer les sacrements. Elle n'a pas eu de ministère sacramentel. Alors, peut-on dire que Notre-Dame a joué un rôle et joue un rôle sur le ministère sacramentel des prêtres catholiques? Eh bien, oui. D'abord, elle est au principe des sacrements. Car le principe des sacrements, c'est Jésus, et Jésus vient d'elle, et nous avons même Jésus parmi nous dans la Sainte Eucharistie. Nous lui devons donc la Sainte Eucharistie, prolongement sacramentel de l'incarnation de Jésus sur la terre. Jésus sans quitter le ciel et sur l'autel à la consécration à la messe. Jésus sans quitter le ciel et dans les ciboires de nos églises, eh bien, nous devons, dans une certaine mesure, la Sainte Eucharistie à la Vierge Marie. Un sacrement, c'est un signe sensible de la grâce, une action sacrée, sensible, efficace, qui transmet la grâce que l'action, que le signe signifie. Ne peut-on pas dire que le grand sacrement, j'espère, Monseigneur, ne pas énoncer une hérésie, ne peut-on pas dire que le grand sacrement, ce soit l'humanité sainte de Jésus? Que la Sainte Eucharistie nous rend présente réellement, substantiellement. Et oui, et oui. Or, cette humanité sainte de Jésus est qui nous rend accessible et qui rend témoignage de la Sainte Trinité, nous la devons à la Vierge Marie. D'autre part, Notre-Dame a nourri son Fils. Elle lui a donné de l'eau pour boire. Elle lui a donné des bouchées de pain pour qu'il s'en nourrisse. Elle lui a sans doute aussi, lorsqu'il avait grandi, il était jeune homme, dosé ses premières gorgées de vin. Elle lui a peut-être fait des onctions d'huile pour sa santé, non pas que celle-ci pouvait être déficiente, mais enfin, comme mère ayant soin de ses enfants, peut-être même pour sa chevelure, a-t-elle fait couler de l'huile pour l'embellir. Or, l'eau, le pain, le vin, l'huile, ne sont-ce pas des matières pour les sacrements, pour le baptême, pour la confirmation, pour la Sainte Eucharistie? Notre-Dame, donc, a utilisé ces matières que Jésus allait reprendre pour en faire ses sacrements. Le sacrement est composé d'une matière et d'une forme. Il y a donc une formule dans l'engagement, une formule intelligible qui a un sens. Eh bien, ce langage humain, autant qu'il lui revenait à elle, la Vierge Marie, la première éducatrice humaine de son Fils, ce langage humain que Jésus a repris dans ses sacrements, dans la forme des sacrements, c'est le langage humain de la langue de sa mère. Certes, ce n'était pas le latin que Marie parlait, mais enfin, au niveau du sens, c'est la langue humaine, la langue de sa mère. Et puis, Notre-Dame ne joue-t-elle pas un rôle dans le ministère sacramentel des prêtres? Certes, elle n'agit pas sur l'efficacité intrinsèque des sacrements. Comme dit la formule théologique, le sacrement, s'il est réalisé selon ses éléments requis, s'il est administré dans les conditions requises, le sacrement agit selon sa vertu propre. On dit, je pense que la formule ne vous paraîtra pas trop technique, on dit ex opere operato. Eh bien, Notre-Dame n'intervient pas dans l'efficacité intrinsèque des sacrements, car c'est Dieu qui a fait que les sacrements aient cette efficacité, mais elle intervient comme cause dispositive, et du côté de l'agent, et du côté de celui qui reçoit le sacrement, du côté du ministre et du côté du sujet récepteur. Et comment? Eh bien, elle va aider le ministre à réaliser plus saintement son ministère sacramentel. Elle va l'inspirer afin qu'il gagne des grâces pour que ceux qu'il va administrer sacramentellement reçoivent plus pleinement encore l'effet des sacrements dans la mesure où ceux-là sont adultes, sont moralement adultes. Le Père Emmanuel donne un ordre dans le ministère des prêtres. Il dit que le prêtre prie, que le prêtre prêche et qu'il administre. Et c'est dans l'ordre chronologique que le prêtre prie pour que les âmes soient mieux disposées, pour que le prêtre enseigne afin que les âmes sachent ce qu'elles vont recevoir autant qu'il est possible de le savoir dans la foi et l'intelligence de la foi. Et alors, il peut ensuite administrer avec la plus grande efficience possible les sacrements. C'était la fonction de donner Dieu, de donner le sacré. Le prêtre a une autre fonction, celle de représenter l'humanité devant Dieu, et même de présenter l'humanité à Dieu. Le père Bernard a une formule très amusante. Il dit que le prêtre a pour fonction, de ce point de vue-là, de rendre l'humanité présentable à Dieu. Et il dit même sortable à Dieu. Pensez à des parents qui sont invités chez des amis et qui amènent leurs jeunes enfants. Et ma foi, imaginons que l'un des garçons ait 7-8 ans. Et ma foi, sa tenue à table n'est pas absolument exemplaire. Alors il se fera reprendre certainement sur le coup, et puis après la réception, il entendra ses parents lui faire d'autres reproches plus précis, en lui disant, vraiment ce soir, tu n'étais pas sortable, tu nous as fait honte. En espérant évidemment qu'au fil des années, en recevant l'éducation que les parents vont donner, il deviendra enfin sortable, présentable. Eh bien, le père Bernard nous dit que le prêtre nous rend présentable devant Dieu, sortable devant Dieu, parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et cela, chers fidèles, c'est extrêmement important. Il y a quelques années, dans une revue que j'ose à peine nommer, mais je la nomme pour fixer les esprits, la croix l'événement. Il y avait les résultats de questionnaires proposés à des croyants pratiquants, à des croyants non pratiquants, à des non-croyants, des statistiques. Et parmi ces questionnaires, il y avait cette question. Pour vous, le prêtre est-il un homme nécessaire? Eh bien, la réponse n'était pas unanime auprès des fidèles catholiques. Pour certains, le prêtre n'était pas un homme vraiment nécessaire. Un prêtre est sans doute pour cela un homme intéressant, voire utile, mais on pourrait à la rigueur se passer de lui, mes chers amis. Non, on ne se passe pas du prêtre, car Dieu a voulu le prêtre. Et bien donc, le prêtre dont on ne se passe pas est placé par Dieu pour rendre l'humanité présentable, évidemment, dans le résultat de la rédemption accomplie par Jésus. Le prêtre pense pour les fidèles. Le prêtre parle pour les fidèles. Le prêtre célèbre la messe pour les fidèles. Pensez à la collecte de la messe. Que signifie ce mot « collecte » ? Eh bien, après l'étymologie, et c'est un rassemblement. Le prêtre rassemble, et l'Église rassemble, les intentions des fidèles, et même elle dirige ses intentions. Elle dit aux fidèles quelles sont les intentions qu'ils doivent avoir, et elle les présente à Dieu à travers les prêtres, par les prêtres. L'Église est essentiellement sacerdotale. La Vierge Marie a présenté à Dieu l'humanité, et elle nous a représentés. Saint Thomas d'Aquin se demande si l'annonciation était nécessaire. Et il répond oui. Il donne quatre raisons. Et la quatrième est la suivante. Elle était nécessaire afin que la Vierge Marie, par son consentement volontaire, manifestât qu'un réel et qu'une sorte de mariage allait se réaliser entre Dieu et la nature humaine. Et ce faisant, par son consentement, la Vierge Marie, poursuit saint Thomas d'Aquin, représentait la nature humaine. Or, la nature humaine n'existe pas comme ça dans l'air. Donc, elle représentait l'humanité en donnant son consentement à l'Annonciation, consentement à la maternité divine, duquel consentement dépendait, on peut dire, l'incarnation, Notre-Dame nous représentait. Elle parlait en notre nom. Et saint Bernard a un très bon sermon sur l'Annonciation. Il assiste à l'événement et il se met derrière la Vierge et il lui dit: ô Marie, nous ne pouvons pas répondre, nous sommes indignes de répondre, on dirait impresentables devant Dieu, nous ne serons pas agréés de nous-mêmes, par nous-mêmes. Marie, répondez pour nous. Et il dit même: répondez vite. Et Marie a répondu vite, elle a répondu sans précipitation mais surtout sans retard. Notre-Dame nous représentait. Notre-Dame se présentait même à Dieu en toute humilité. Elle présentait sa plénitude de grâce. Elle présentait donc sa sainteté parfaite. Et lorsque Jésus s'incarne en elle, elle se présente avec Jésus et évidemment, c'est plus grand et c'est plus beau encore. Elle présente à Dieu le Père ce Jésus et qui tient l'humanité d'elle, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et puis Marie est là pour nous, elle prend soin de nous, elle savait qu'il nous fallait son consentement et elle le donne. Le prêtre se dévoue aux âmes. Soyez-vous pour enseigner les âmes. Le prêtre doit prier, étudier, contempler ce qu'il étudie afin de bien le prêcher. Le prêtre doit célébrer la messe et il peut en coûter beaucoup de fatigue au prêtre pour célébrer la messe, pour rassurer la messe quand les prêtres dimanche disent 2 messes et encore en certains endroits 3 messes. Ils font des centaines de kilomètres. Ils doivent se dévouer aux âmes, et cela fait partie de leur sacerdoce, ce dévouement, quoi qu'il en coûte. Nous admirons la générosité, le dévouement, le sacrifice des prêtres sous les révolutions, dans les temps de persécution. Pensons à la Révolution française, pensons à la résistance chrétienne des Cristeros au Mexique. Les prêtres allaient au-devant des troupes du gouvernement pour plaider le salut de leurs fidèles. Les hommes étaient au combat souvent, les femmes, les enfants, les vieillards étaient dans l'église à prier et le prêtre se présentait pour défendre les fidèles, pour défendre la religion, pour défendre le sacré. Et souvent, le prêtre était le premier à passer par la baïonnette. Il offrait sa vie. Eh bien, il manifestait par cela son rôle auprès des fidèles, son rôle comme ministre des sacrements, comme sacrificateur à l'autel. Et si les prêtres n'avaient pas eu ce courage, s'ils s'étaient cachés par peur, en disant « attendons des temps meilleurs, on réapparaîtra durant les temps meilleurs. Quel témoignage aurait-il donné aux fidèles? C'eût été un contre-témoignage du point de vue du sacré, de leur fonction de donner les réalités divines aux hommes. Le sacrifice de ces prêtres-là était donc inscrit, on peut le dire, comme ontologiquement, réellement, dans la profondeur des réalités, était inscrit dans leur sacerdoce, dans leur caractère sacerdotal. Eh bien, la Vierge Marie, c'est beaucoup et c'est peu de dire ainsi, c'est énormément dévouée pour nous. Elle est celle qui a beaucoup prié pour nous. On la voit au Cénacle, auprès des apôtres, les préparant à l'effusion de l'Esprit Saint. Elle est celle qui a beaucoup souffert pour nous, beaucoup pleuré pour nous. Elle est la Vierge de compassion. Elle s'est toute dévouée à nos âmes. Toute mère de Jésus, elle a été toute mère spirituelle pour nos âmes. Voilà le tour des fonctions sacerdotales, on peut les appeler ainsi dans un sens analogique chez Notre-Dame. On vous disait que pour être digne de ces fonctions, il fallait une élévation divine, un sacre divin. Alors, qu'est-ce qui en Marie rend raison de ces fonctions que l'on vient de dire et qu'elle continue au ciel? Eh bien, ce qui tient lieu d'ordination, si l'on peut dire, et de grands auteurs n'hésitent pas à employer ce terme, de consécration chez Notre-Dame, cela n'est autre, et vous vous en doutez, que sa maternité divine. Jésus est prêtre par l'incarnation. Notre-Dame lui ressemble sous l'aspect de son sacerdoce par sa maternité divine elle-même. Le sacre de Jésus dans le sein de Marie rejaillit et c'est au même instant rejaillit dans l'âme de la Vierge Marie pour qu'elle puisse exercer les fonctions que j'ai essayé humblement, maladroitement, imparfaitement de vous décrire. Terminons. Le grand privilège de la Vierge Marie, c'est sa maternité divine. Tout part de là, tout revient à là. Et donc, sa médiation de toutes les grâces part de sa maternité divine. Et les fonctions que je vous ai dites, de donation du divin, du sacré, de représentation de l'humanité devant Dieu, les fonctions que je vous ai dites découlent de sa maternité spirituelle et donc de sa maternité divine. Notre-Dame est toute mère. Toute mère de Jésus, on pourrait dire rien que mère de Jésus, et toute mère de nos âmes, sa fonction auprès de nous est une fonction sacerdotale, maternelle, maternelle. Notre-Dame est faite pour nous donner la vie, toute la vie, autant que cela dépend d'elle, comme médiatrice, Dieu étant évidemment la cause première, la source véritable de la vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en plénitude, et nous l'avons par sa rédemption, et nous l'avons par la médiation maternelle de Notre-Dame. Une mère enveloppe ses enfants. Elle les enveloppe quand elle les porte, et ensuite elle les enveloppe de son affection, de sa protection, de sa sollicitude, jours et nuits, surtout lorsqu'ils sont petits. Notre-Dame nous enveloppe. sa mission auprès de nous, par les fonctions que j'ai essayé d'exposer, sa mission est une mission, dit le père Bernard, tout enveloppante, englobante. Et pour terminer avec un mot de saint Jean Eudes que nous fêterons tout prochainement, eh bien, vivons in sinu mariés, vivons dans le sein de la Vierge Marie, ne quittons pas l'Immaculée Conception, ne quittons pas la Mère de Dieu. Merci de votre attention.